fertile, est-ce qu'un art assez général, un peu pataphysique peut-être, mais en même temps, qui pose vraiment la question du quotidien. Le quotidien, c'est fait toutes ces choses-là, et c'est autour de ça, moi, que j'avais envie de travailler, c'est-à-dire à partir de quelque chose qui a l'air extrêmement simple, qui a l'air au premier degré, en réalité, c'est toute la profondeur de la vie quotidienne. C'est que chaque geste, effectivement, a besoin, non pas d'un résultat, mais est accompagné et s'inscrit dans l'univers. Et notre rapport à l'univers, évidemment, pour nous tous, c'est la chose fondamentale. Donc le livre a commencé comme ça, et j'étais parti pour écrire un livre qu'on m'avait commandé sur l'écologie humaine. Mais j'ai été débordé par la vie. Et j'ai quitté les bibliothèques pour un tipi, et finalement, je suis bien content de l'avoir fait. Et le livre, il est là, si l'éditeur le veut, on peut le refaire. C'est-à-dire, c'est l'écologie humaine, humaine. Voilà.
Marielle Massé, Pascal Billy parlait d'écriture, de littérature. À l'instant, alors, votre livre comporte à la fin une bibliographie extrêmement fournie. Comment avez-vous trouvé la bonne forme littéraire, la manière de relier tout ça?
Alors, je pense que la réponse la plus sincère que je pourrais faire, c'est que c'est venu sans que je le souhaite, que ça se relie. C'est-à-dire que le travail, la réflexion, les expériences autour de cette affaire de la respiration se sont associées, nouées tout seules. Et les choses ont convergé dans une sorte de parcours qui est venu presque malgré moi. De tout l'irrespirable du temps jusqu'au désir de soulever des possibilités, de renouer avec le souffle et à la volonté d'en faire un travail d'écriture, c'est-à-dire de ne pas avoir seulement la respiration pour thème, mais aussi d'avoir la respiration pour but, pour valeur, pour unique amour en quelque sorte. Enfin, c'est un livre qui essaye de libérer un tout petit peu la respiration de celle qui y écrit et de celle et ceux qui voudront bien la lire. C'est-à-dire que c'est dans un certain registre de parole, un équilibre de colère et de calme, un désir de brancher toutes nos connaissances sur la possibilité de soulever en nous un amour de la vie malgré, en dépit, à l'intérieur même de tous ces paysages pollués. Donc s'il y a de la littérature, et il y a de la littérature dans mon livre, elle est dans la façon dont j'essaye d'aérer ma phrase, d'aérer ma prose pour vous faire de la place et pour accompagner en nous tous, en fait, ce grand appel d'air. Donc voilà, à travers des petits récits, une multiplicité de paysages, il s'agit surtout d'accompagner le courage d'acquiescer à ce devoir, à cette grâce quotidienne de la respiration, malgré l'air qui nous est fait, en quelque sorte.
Pascal Billy, vous disiez à l'instant que vous aviez été, en arrivant en Californie, rattrapé par la vie. Au fond, vous racontez dans le livre que vous, l'Européen très cartésien, vous avez dû changer complètement votre regard sur le monde et lâcher quelque chose, laisser de côté certaines références pour mieux comprendre tout ce qui vous entourait.
Mais c'est justement ça le travail de l'ethnologue, c'est dans le regard. Alors maintenant, il y a la respiration en plus, mais n'empêche que regarder, c'est un exercice et c'est un acte au sens complet du terme qui implique qu'on regarde le monde, non pas à partir de ce qu'on voit, mais à partir justement de ce qu'on ne voit pas. D'une certaine façon, il faut, quand on est ethnologue, ne pas en croire ses yeux. Et justement, l'intérêt des notes, c'est que vous écrivez des choses et vous savez très bien, même si vous n'avez pas très bien compris comment les choses se passaient, vous risquez de noter des choses qui sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus profondes que vous le croyez, parce qu'on a peu l'habitude d'y faire attention. Et d'une certaine façon, là aussi, quand on prend des notes, on revient et on commence à regarder le monde sous un autre angle. Alors, la distance, comment est-ce qu'on fait quand on est à l'intérieur? Alors, il y a l'école de Lévi-Strauss qui disait qu'il fallait avoir un regard lointain et que la sociologie ne peut se faire scientifiquement que si on prend de la distance. Moi, je pense exactement l'inverse. C'est-à-dire, je crois qu'il n'y a pas de possibilité de d'objectivité, il n'y a qu'une possibilité de subjectivité. Et quand on aura, additionné les subjectivités les unes avec les autres, vous vous faites une idée, effectivement, de ce que peut être cette société que vous ne connaissez pas. Et d'une certaine façon, ça veut dire aussi, quand je raconte ça, ça veut dire qu'il faut être complètement ouvert, qu'il faut accepter l'idée que tout ce que vous ferez dans une autre culture, ça va être à l'origine d'un malentendu, que lorsque vous souriez chez les Indiens Yukuna, il ne faut pas le faire, parce que si vous souriez, vous montrez vos dents. Et qui montre ses dents sinon un animal ? Un humain ne fait que serrer les lèvres, et éventuellement on se flaire. Mais en tout cas, on ne sourit pas devant l'autre. Donc ce sont des choses comme ça qui sont toutes petites, toutes mini, mais qui impliquent qu'à chaque fois, il faut se reposer la question absolument totale de la gestuelle, de son expression. Est-ce que je peux me servir de mes yeux ? C'est une bonne question. Si vous allez dans une société orale, par exemple en Nouvelle-Calédonie, dans une société océanienne, vous savez qu'il y a plus de 70 façons de regarder, de cligner des yeux, de regarder les gens. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience-là en Calédonie ou ailleurs, de vous retrouver en face de quelqu'un avec qui vous essayez de parler, et qui joue avec les yeux, qui pense qu'elle vous répond. Alors c'est des histoires tout le temps comme ça, effectivement, qui fait qu'on est bien obligé de regarder au sens ouvert du terme et non pas fermé. Parce que je crois que l'œil est d'abord enfermé dans derrière une coque et qu'il a tendance à projeter effectivement ce qu'il voit. Maintenant, comment est-ce qu'on se dénude ? Comment est-ce que j'accepte de sentir ce qu'il ne sent pas ? Mais il faut le découvrir. Je ne sais pas, l'expérience que vous pouvez avoir est très simple. Vous pouvez aller en Allemagne, à l'heure du goûter, ils mangent des tas de gâteaux qui pour moi n'avaient jamais aucun goût puisque je ne les connaissais pas. Et je trouvais les goûters allemands extrêmement fades. Et inversement, vous pouvez vous trouver en Amazonie, à ce moment-là, manger du manioc en galette, de la cachaça, et pas de la cachaça, pardon, je cherche le nom, je ne m'en souviens plus, mais toujours est-il que là aussi, vous apprenez qu'on ne mange pas la galette d'un tel parce qu'elle n'est pas bonne. Comment voulez-vous que je sache le goût de la chose ? Si je ne la connais pas, je ne peux pas la comparer. Donc petit à petit, comme ça, quand on est inscrit dans une société, en écoutant, en sentant, en respirant, bien entendu, on rentre dans un univers qui est beaucoup plus complexe, qui est beaucoup plus profond et qui implique une relecture de ce que nous sommes tout le temps. Donc c'est cette espèce d'attention permanente avec cette roue effectivement qui avance et qui se transforme, qui permet finalement de créer par, c'est ma décision depuis le début de mes études d'anthropologie, c'est oui, il faut faire du travail subjectif et l'assumer, mais pas uniquement subjectif et fermé. Ce n'est pas l'expression d'une idéologie, c'est au contraire l'expression d'une ouverture par le fait que nous sommes limités dans le regard et que ce regard limité, il faut absolument le partager, l'augmenter par d'autres regards avec qui on va pouvoir partager.
Marielle Massé, Pascal Diby disait à quel point votre livre est politique, violent parfois, notamment quand vous abordez la question du travail et la question des inégalités au fond face à l'air que nous respirons, puisque questionner la respiration, c'est aussi questionner notre modernité depuis la révolution industrielle. Qui respire quoi ? Évidemment, on n'a pas la même espérance de vie, on n'est pas exposé de la même manière à un air vicié si on est un ouvrier, un mineur ou si on travaille dans un bureau.
Oui, en effet, c'est un des points que j'ai essayé de soutenir durablement dans ce livre, que la respiration n'est pas une affaire c'est pas un rendez-vous de mon corps avec mon environnement immédiat. C'est une affaire très collective, très sociale et très politique aussi. Et en même temps, c'est l'affaire la plus intime. Donc c'est une zone de branchement entre la grâce la plus extraordinaire, enfin le fait d'être visité par une espèce de dieu 15 fois par minute ou 22 000 fois par jour, et la chose la plus extérieure, la plus potentiellement violente et la plus politique. En effet, un grand anthropologue de la santé, comme Didier Fassin, qui est maintenant professeur au Collège de France, mais qui était un médecin humanitaire aussi pendant très longtemps, communique très régulièrement ces chiffres et ces vérités qui devraient être explosives à l'oreille du pouvoir. Il y a 9 ans de différence d'espérance de vie et bien plus encore d'espérance de vie en pleine santé entre un manœuvre et un professeur. Je suis professeur. Il y a une inégalité foncière de l'exposition à l'air toxique selon le métier qu'on exerce, le lieu de la ville ou du territoire où on habite et la couleur de peau qui est la nôtre. Il y a des mobilisations sociales aussi pour précisément essayer de rendre visibles ces inégalités devant l'air qu'on respire. Donc c'est un aspect oui, important de ce petit livre que d'essayer de faire de la respiration cette chose qui à la fois déclare ou accuse en quelque sorte la profonde inégalité de la valeur accordée aux différentes vies, et puis en même temps qui fait entendre que cette idée de respiration, elle constitue ce qu'Achille Mbembe a appelé un droit universel. Je ne sais pas si vous connaissez Achille Mbembe, qui est un historien, philosophe camerounais, et qui a publié au tout début de la pandémie, dans ce quotidien en ligne formidable AOC, ce petit texte qui s'appelait « Le droit universel à la respiration ». Et qui a, c'était avant la mort de George Floyd, donc cette dimension n'était même pas présente dans son texte, qui pourtant est un texte qui part des Afriques et qui observait la façon dont ça se passait, les débuts de l'épidémie dans les Afriques, la façon dont des populations et toujours les mêmes sont plus exposées à la toxicité des déchets, à la concentration des polluants. Et donc il réclamait face à cet acharnement en quelque sorte de l'irrespirable sur les mêmes segments de la population, face à cette espèce de sûreté avec laquelle l'air vicié trouve son chemin vers les poumons des plus précaires, il réclamait un droit universel à la respiration. Alors je me suis évidemment retrouvée dans son texte et j'ai eu envie aussi d'élargir cette affaire de respiration à tout ce qui nous rend la vie aimable, désirable, respirable, donc à d'autres, à des états de paysage, à des formes de solidarité, à des robustesses dans les liens, dans la fraternité, dans le fait de pouvoir compter les uns sur les autres. Enfin, j'ai essayé de soulever toutes ces raisons de tenir à une vie respirable et d'espérer ça, pour que espérance de vie, ça porte un sens plus généreux, plus large, plus respirant, là aussi.
Oui. Et on retrouve dans votre livre ces questions de l'attention portée à l'autre, de comment on fait communauté et comment on regarde vers un avenir, en effet, pour commencer de bâtir ensemble un avenir plus respirable. Hein, parce que...
De toute façon, la question actuelle, c'est de savoir comment on va enfin réussir à nous faire payer l'air qu'on respire. Alors, c'est une notion qui est assez récente en réalité. Vous en parlez un tout petit peu dans votre ouvrage. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a eu des Américains, c'est vraiment la société des glaçons, qui ont eu une idée extraordinaire, c'était de construire des gratte-ciels. Et dans ces gratte-ciels, il est arrivé une histoire absolument incroyable, c'est qu'ils ont décidé qu'il ferait toujours beau. Et ça s'appelle simplement le fait qu'on ait mis le refroidissement constant implique effectivement une relation à la respiration tout à fait nouvelle. Mais quand on a, dans les années 30, commencé effectivement cette révolution ergonomique et cette révolution finalement de la respiration, parce que c'était ça, respiration, transpiration, comment éviter effectivement qu'on transpire toute la journée pendant qu'on travaille, et c'est la fameuse invention de l'air conditionné. Conditionné, ça veut dire énormément de choses. Conditionné, ça veut dire mettre en condition de... Et le plus amusant dans cette histoire des gratte-ciels construits aux États-Unis, c'est qu'au départ... La base moyenne de l'air conditionné, c'était 21 degrés. Et il y avait des gens qui avaient tout le temps froid, c'était les dames, qui se plaignaient effectivement d'avoir toujours un peu froid au bureau. sur le bureau, quand j'ai trouvé le bureau, effectivement. Et en réalité, les normes qui avaient été prises, c'était un homme de 40 ans pesant 1m70, respirant, et 21 degrés, ça marchait. Mais le système des femmes n'est pas tout à fait le même, il fallait mettre 23-25 degrés. Il a fallu une cinquantaine d'années avant qu'on décide et qu'on se rende compte qu'effectivement, l'air conditionné, c'était une chose extraordinaire. Mais est-ce que vous oseriez, si vous étiez issu d'un monde, je dirais, plus antique, rentrer dans une maison dans laquelle on vous dit « vous pouvez vous déshabiller, vous aurez toujours chaud, toujours froid, toujours la même chaleur ». C'est en train d'entrer dans un système rythmique ou arythmique complètement nouveau, c'est qu'en fait, il n'y a plus de variation. Et est-ce que respirer, c'est pas ça justement, c'est abolir la variation, et comme on est dans un système de plus en plus égalitaire, réussir effectivement à partager cet air. Alors il y a des airs purs, il y a des airs moins purs. Souvenez-vous de la bourgeoisie parisienne qui envoyait ces petits paris, comme on dit dans le Morvan, respirer dans le Morvan auprès d'une nourrice morvandelle. Il fallait qu'il respire le bon air, et puis après il revenait à Paris pour le reste de l'année, et puis il repartait là-bas, etc. Vous voyez que la question de la respiration est tout le temps posée, et ce que disait Marielle, c'est exactement ça, c'est-à-dire, il y a des endroits où on respire mal, il y a des endroits où on respire bien, mais il y a une inégalité, effectivement, de la respiration qui existe. Alors, d'une certaine façon, quand on a vécu avec les hippies, on s'est trouvé en face, effectivement, de cette question-là, et de savoir comment partager, parce que la question de la respiration, c'est la question du partage. Comment partager, effectivement, cette inspiration, cette respiration, eh bien, il faut effectivement un système plus égalitaire. Et à ce moment-là, on rentre dans une aventure qui est complètement neuve. Et c'est justement dans ces communautés où j'ai trouvé cette proposition d'égalité. Avec cette chose aussi qu'on a du mal peut-être à comprendre en France, c'est que la question de la pauvreté ne se pose absolument pas dans les systèmes de communautés, parce que c'est des choix. C'est un choix de vivre, de récupérer, de vivre autrement, de ne pas gâcher. Mais quand vous alliez à la campagne jadis, avant que Ikea ne fasse des malheurs absolus et ne nous mette une couette à tous, vous aviez derrière les maisons, vous aviez tout ce qui n'allait pas servir. On gardait la vieille porte, la vieille fenêtre, le vieux châssis, le vieux machin. Bah, ça ne va pas servir un jour. Et puis, effectivement, ça finissait par servir un jour. Mais aujourd'hui, regardez comment les gens jettent. Il n'y a pas une ville, un petit village qui n'ait pas sa déchetterie. Et donc, on est en train de rentrer dans un univers de mise au propre absolument délirante. Et je pense qu'on est de plus en plus une société jetable. Et on va bientôt jeter nous-mêmes. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver très vite.
Mais en même temps, ces hippies dont vous parlez dans votre livre n'étaient pas complètement libérés du système capitaliste, libérés des questions matérielles, puisque vous racontez notamment que certains cultivaient de la sinsémilia, de l'herbe pour faire du cannabis, sur un champ qu'une propriétaire leur louait très cher et sur laquelle elle prélevait un pourcentage extrêmement élevé.
Oui, il faut pas se faire d'illusions. Je veux dire, c'était pas des enfants de cœur, et c'est vrai que c'était des producteurs de marijuana, et que le pot de sansemilla, la plante, ça valait à peu près 10 000 dollars quand ils rapportaient effectivement la sansemilla au moment de la vente, etc. Donc il y avait un commerce, mais ce commerce-là, il n'était pas central dans la vie. Sauf que quelquefois, ce que je raconte, bon, ça c'est parce que c'est plutôt des questions à développer sur la question de la domestication. Il y a eu des engueulades à l'intérieur de la communauté, et à un moment donné, celui qui partait a arraché les pieds de sansemilla, enfin de la chiche, et les a donnés aux chèvres. Et les chèvres ont été stone pendant des semaines, et nous avec. Et c'est là où j'ai découvert l'amour des chèvres pour les hommes. En tout cas, il y avait une chèvre qui m'adorait, et je ne savais pas comment me débarrasser. Heureusement, je n'ai pas donné mon adresse. Donc ça s'est arrêté là. Mais c'était les choses drôles, justement, de la vie, c'est ça. C'est qu'à chaque fois, ça provoque des réactions et on rentre dans une autre histoire, effectivement, qui est finalement à chaque fois l'histoire de l'écologie. Manger trop de cannabis, c'est pas très bon peut-être pour les neurones, mais n'en pas manger pas du tout, c'est peut-être pas non plus très bon non plus, peut-être que ça fait beaucoup de bien autrement. Donc on est là dans une autre histoire, c'est l'histoire de l'équilibre, l'histoire de l'harmonie. Parce que ce qui est posé dans un système communautaire, c'est la question de l'harmonie. Savoir comment on peut vivre ensemble sans léser l'autre. Et bon, voilà, c'est un peu autour de ça que ça tourne aussi le bouquin.
Marielle Massé, je disais tout à l'heure, vous avez écrit précédemment un livre sur les oiseaux. Vous revenez dans ce livre-là sur le rapport entre les oiseaux et la respiration. Que pouvons-nous apprendre au fond des oiseaux et de leur manière d'utiliser l'air, d'utiliser l'oxygène?
Alors je vais venir aux oiseaux, mais avant, pour bavarder un peu avec vous au sujet de l'air conditionné, en m'y intéressant justement, je me suis rendu compte que c'était une histoire un tout petit peu plus ancienne et aussi très très française, dans la mesure où l'un des premiers systèmes qui a été mis au point, c'était au début des années 30 pour l'armée du salut, dans un bâtiment projeté par Le Corbusier, qui s'appelle la Cité de Refuge, et qui était à destination des plus démunis, et où tout un imaginaire sanitaire et l'imaginaire du contrôle de l'hygiène et de la respiration irriguaient en quelque sorte la recherche technique qui avait été faite par Le Corbusier. Donc c'est un bâtiment qui existe toujours. C'était un bâtiment à l'étanchéité maximale, pour que la saleté supposée des plus pauvres ne sorte pas trop dans la ville. Et donc il y avait un principe de ce que Le Corbusier avait appelé la respiration exacte, c'est-à-dire le contrôle de l'air qu'on respire. Et donc cette mise en place de l'air conditionné, vous avez raison, c'est exactement le contraire de ce que c'est qu'une atmosphère. Une atmosphère, c'est un mélange, une atmosphère, c'est une sorte d'entre-pénétration permanente des choses. Notre bien oxygénique, nous le devons aux déchets des arbres et des végétaux, ce que eux rejettent, ce qui est leur excrétion atmosphérique, si on veut, c'est ce qui nous nourrit d'un point de vue respiratoire. Donc la respiration, c'est précisément le contraire de ce circuit fermé du conditionnement, c'est laisser rentrer, laisser sortir, c'est une affaire de porosité, de désimperméabilisation, d'impureté à tout point de vue. Alors, à propos des oiseaux, oui, j'ai une passion pour les oiseaux et ça m'a conduite à un autre livre beaucoup plus copieux, qui est une vaste, vaste enquête sur tous les liens que les cultures humaines entretiennent avec les oiseaux et sur ce que deviennent ces liens maintenant que les oiseaux s'éteignent ou menacent de s'éteindre. Et je me suis aperçue que les oiseaux sont présents à bien des titres dans non seulement l'imaginaire mais aussi la compréhension du souffle. Ils ont été mis à contribution très tôt par les sciences expérimentales pour mieux comprendre la mécanique de la ventilation. C'est le tout début de l'histoire des sciences expérimentales avec quelqu'un qui s'appelait Boyle et qui avait inventé une machine qui s'appelait la pompe à air. Ça consistait en fait à priver d'oxygène des oiseaux pour prouver le rôle de l'oxygène dans la ventilation. Mais les oiseaux sont présents dans le rapport au souffle de bien d'autres manières. D'abord, si vous avez eu l'occasion de tenir dans vos mains un oiseau, et on comprend que c'est une cage presque vide de souffle, un oiseau. Ça serait si facile à écraser. Enfin, il y a une palpitation de vie, une chaleur, un rythme, et en même temps une fragilité, une légèreté stupéfiante. Et l'oiseau doit à cette énorme capacité respiratoire la possibilité du vol et la possibilité du chant. C'est à l'air qui le remplit qu'il doit ces deux grâces, en quelque sorte. Et il y a un très beau livre de Jules Michelet, le grand historien de la respiration, non, de la révolution. Respiration-révolution. Il y a un grand livre de Jules Michelet qui s'intitule « L'oiseau », où Michelet a des très belles pages, justement, sur cette sorte de ballon qu'est l'oiseau. On savait que l'oiseau était un vaisseau, dit-il, on ne savait pas qu'il fût un ballon. Et puis l'oiseau est aussi un compagnon des espaces les plus respirables, les jardins, le bout de jardin que, à la fin du XIXe siècle, un personnage considérable, l'abbé Lemire, qui était à l'origine du mouvement des jardins ouvriers, le bout de jardin dont l'abbé Lemire avait dit il est de la responsabilité de l'État de mettre à disposition de toutes les familles un morceau de terre à cultiver. Ben, ce bout de jardin, si vous avez la chance d'en avoir un, vous savez que c'est un espace de respiration, que c'est quelque chose qui est aussi présent à votre corps que vos mains, que vos vêtements. C'est la zone qui permet cet échange avec le dehors. Les oiseaux sont évidemment les compagnons de cette affaire-là, et puis dans certains métiers particulièrement asphyxiants et douloureux, dans la mine par exemple, ben, là aussi on s'en souvient, les oiseaux étaient des compagnons, des collaborateurs, des sentinelles,
les canaris
qu'on emmenait dans une cage au fond de la mine parce qu'ils sont très très sensibles à ce gaz asphyxiant qui est à l'origine des coups de grisou que l'odorat humain ne perçoit pas. Les canaris, eux, ils sont beaucoup plus rapidement sensibles, et le fait qu'ils arrêtaient de chanter était signe que l'explosion était proche d'arriver. Et puis, à la retraite, les mineurs, et c'est encore le cas, élèvent des colombes dans les jardins, dans les cabanes au fond des jardins, et quelque chose se répare de leur propre... De leur bronche malade, souvent de la silicose, dans ce soin pris à un autre vivant à travers lequel on se respire. Donc, je le dis des oiseaux comme ça, par admiration, émerveillement devant les beaux compagnonnages qu'on a avec les oiseaux, mais on pourrait le dire de n'importe quel autre habitant. De cette atmosphère mêlée qu'est la terre vivable, la terre respirable.
Pascal Diby, ce récit est aussi au fond l'histoire d'une procrastination, c'est-à-dire que vous arrivez avec une commande, donc essayez de définir ce que pourrait être une écologie humaine, et puis on voit bien que vous tentez de revenir régulièrement à votre sujet, mais alors au final, qu'est-ce que ce serait cette écologie humaine? Est-ce que vous êtes arrivé à en faire une définition?
Ben, je pense que j'ai fait là mon livre le plus écologique, le plus politique, c'est-à-dire le plus lisible, dans le sens où finalement partager le quotidien, je reviens là-dessus, mais parce que je crois qu'il n'y a pas de dynamique sociale plus puissante que le quotidien. C'est dans ces endroits, je dirais, non investis par les sciences sociales, etc., que les choses se font réellement. Donc en fait, c'est l'espace de fragilité, c'est l'espace effectivement où la pensée se mêle à la respiration, on pourrait dire, où le désir d'invention se mêle aussi à la résistance de faire quoi que ce soit pour répondre à la professionnalisation. Mais je pense aussi que si les sciences sociales, c'est très important cette histoire justement d'écriture, se poser la question de la restitution du travail qui est fait auprès après des enquêtes ou autres, etc., ce travail, il faut qu'on le partage. Et c'était une des grandes obsessions d'André Leroy-Gourhan. Il pensait effectivement qu'un chercheur au CNRS, un prof d'université, son premier objectif, ça devait être de partager ce travail, cette étude qu'il faisait sur une chose ou sur une autre. Et effectivement, la difficulté, c'est de se faire entendre, c'est de se faire comprendre, c'est de réussir à restituer l'autre sans non plus le nier. Donc on est sur des œufs, et quand j'ai écrit mon ouvrage, effectivement, j'ai toujours fait attention à ce que j'allais dire, à la façon dont je le présentais. Alors l'humour permet de dire pas mal de choses, effectivement, et ça aide énormément. Quand on en a, on peut s'en servir. Mais en même temps, je dirais qu'à chaque fois, quand il y a une phrase qui est écrite, il y a aussi quelquefois des heures de recherche passées en bibliothèque. Et ça peut être simplement la question de pouvoir écrire. Je voudrais que nous soyons simplement, non pas des hommes dans la nature, mais que nous fassions partie de la nature, et que la nature, effectivement, est humaine autant qu'elle est forestière ou autre, etc. Il n'y a pas de différence. Mais pour faire entendre cette simple constatation, dans une société qui s'est bâtie, et l'anthropologie l'a beaucoup aidé d'une certaine façon, où on a fait une scission entre nature et culture qui semble absolument irréconciliable. Et notamment les politiques qui ont toujours 30 ans de retard. Vous savez que les politiques ont découvert le structuralisme dans les années 80, alors qu'elles existaient depuis les années 50, 60, etc. Donc à chaque fois qu'on dit quelque chose, ça met très longtemps à sortir de l'université ou de chez les chercheurs. Et pour se faire entendre effectivement sur la nature, regardez la difficulté qu'on a encore aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'exemple de la respiration. À faire entendre que oui, tout est fragile, qu'il faut faire extrêmement attention à ce qu'on manipule dès lors qu'on en fait un objet d'étude, et que le restituer, ça veut dire aussi faire comprendre que les choses ne s'imposent pas. Et l'écologie, c'est ça. On ne peut pas imposer les choses. On ne peut pas s'inscrire dans une histoire punitive constante en disant « si vous continuez, je vous coupe l'eau, vous aurez... » Mais non, ce n'est pas que vous n'aurez plus le droit de respirer, c'est qu'on ne respirera plus. Donc c'est beaucoup plus simple que ça. Ce n'est pas que vous allez ne pas boire, c'est que vous ne boirez plus. Je suis reparti dans mon village la semaine dernière, j'ai trouvé dans ma boîte à lettres la chose la plus atroce que j'ai pu lire depuis toujours. L'eau n'est plus potable. Qu'est-ce que vous faites en face d'une annonce pareille ? Elle n'est plus potable.
L'eau de pluie n'est plus potable.
Voilà. Et c'est pas dit. Alors, il y a vraiment quelque chose de terrible. On vient de nous annoncer que ça y est, on sera tous empoisonnés. Enfin, c'est à la fois. Donc, il faut dépasser cette histoire, etc. Mais n'empêche qu'elle est là et qu'on me dit d'aller acheter de la flotte au supermarché d'à côté. J'en m'en suis pas encore remis parce que c'est vraiment terrible. Et c'est ce que vous disiez, vous.
Oui, pardon. L'humour qui est très présent dans votre livre et la tendresse aussi, parce qu'il y a un regard qui est porté sur des expériences qui ont aussi fait sourire et le regard que vous portez sur elles consiste à dire ben non, faisons-les, rapprochons-les de nous. Et c'est un autre point commun entre nos démarches. Moi, j'ai essayé de terminer sur la question de la douceur qui se porte mal, en fait, en décrivant la douceur comme une espèce de bête sauvage qui est cachée au fond du langage. Et elle se cache parce qu'elle a beaucoup à perdre, elle risque gros. Et je crois que parler, ça consiste en grande partie à aller chercher cette bête sauvage pour la faire respirer au grand air. Je crois que parler entre nous, ça peut être très souvent ça, vérifier notre humanité en quelque sorte, enfin rétablir une fraternité. Et il me semble que cette question de la tentative d'irriguer nos échanges par des formes de douceur, elle est précieuse pour soutenir en nous justement l'amour de la vie.
Vous citez un très beau vers du poète Zeno Bianu, inspirer, espérer.
Oui, il dit inspire, espère. Alors c'était le titre que je voulais donner à mon livre, Colette. Puis on a trouvé que ça devenait un peu mécanique parce que j'ai plusieurs livres qui
sidérés, considérés,
façon de lire, manière d'être. Et même mon fils, il m'a dit « Oh, oui, mais ça ressemble beaucoup à... » Mais disons, c'est le cœur du propos. Dans l'air qu'on respire, il y a deux grâces. Il y a l'air qu'on prend et celui qu'on lâche. Et celui qu'on lâche, il faudrait que ce soit notre participation à un monde de courage, d'espérance, de joie. Enfin, voilà, que la respiration prenne sa part aussi de tout ce qu'on peut attendre les uns des autres et de nos appuis, de nos solidarités. C'est un mot que je répète un peu beaucoup là, mais... Si on prend conscience de ça, du fait que la respiration est une affaire collective, il me semble qu'on est déjà en train de partager beaucoup de choses.
Vous voulez ajouter quelque chose ?
Non.
Vous commencez votre livre, Pascal Bibi, en écrivant « Le monde a changé, moi non ». Vous êtes resté absolument fidèle à ce que vous étiez il y a 40 ans ?
Non, je suis absolument infidèle, mais... Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est justement le risque d'anachronisme qu'on peut avoir en pensant qu'on va évoluer. Je crains qu'on ne bouge pas du tout, parce qu'on fonctionne heureusement avec les mêmes systèmes d'évaluation du monde, et on a des origines particulières, chacun, familial, ethnique, tout ce qu'on veut, etc. Et quand je dis ça, ça veut dire qu'en fait, je n'ai pas vieilli, au sens où ce qu'on a dit, je reviens, il y a 43 ans, sur les problèmes de l'écologie, sur les problèmes de l'eau, sur les problèmes... On le disait, personne ne voulait nous entendre, et on nous prenait pour des farfelus. Donc c'est en ce sens-là que rien n'a changé. C'est-à-dire qu'on a déjà dit tout ce qu'on dit aujourd'hui, mais on commence à se rendre compte que c'est catastrophique. Mais je pense qu'il ne faut pas l'entendre comme quelque chose de catastrophique, parce que ça va s'arranger d'une façon ou d'une autre. On va peut-être disparaître demain matin, ça va être un grand mouvement hercynien et ciao. Ça peut arriver, et ça arrivera sûrement d'ailleurs. Mais en attendant, ce que je voulais dire par là, c'est que pour moi, la relecture de mes carnets fait qu'on arrive effectivement par cette magie absolue d'une transportation, une rétro-transportation, à vous retrouver dans une ambiance dont j'avais moi-même oublié la réalité, si je puis dire. Et je pense que la description des vêtements, les façons de manger, ce qu'on pouvait lire, etc., ben montre que finalement, on a toujours les mêmes intérêts. Et je prends un exemple. Par exemple, on avait une Bible pendant les années 80-90 qui était le Woolworth Catalog, c'est-à-dire le catalogue des objets, des outils pour tout arranger. On pouvait faire la naissance d'un enfant à la maison, comme on pouvait lire aussi des choses sur les astronautes. Et ce qui est absolument génial, c'était la trivialité de nos interrogations, par exemple sur la conquête spatiale. La seule chose qu'on voulait savoir, c'est comment un cosmonaute pouvait faire pipi sans se tâcher. Et il y a des articles entiers sur la question. L'autre question, c'est de savoir comment on pouvait dormir sans tomber de son lit, comme on ne peut jamais être couché quand on est en état de comment est-ce qu'on dit
apesanteur.
Merci d'apesanteur, je cherchais le mot. Apesanteur, et là, c'est absolument magnifique, où en fait, dormir debout quand on est couché ou couché quand on est debout, d'un seul coup, les choses se perdent. Et en même temps, il y avait derrière... cette problématique aux États-Unis à l'époque, c'était il y a un article très célèbre qui s'appelle Bla bla bla, you are dead. C'est-à-dire qu'en fait, depuis la guerre du Vietnam, tous les Américains étaient morts. Ils étaient morts effectivement de ces agents orange qui leur étaient tombés dessus, et avec les agents orange sont arrivés de nouvelles maladies, des cancers de l'utérus, des testicules, de tout ce qu'on veut, etc., par millions. Et notamment, en dehors des vétérans américains, il y a évidemment tout le Vietnam qui était touché par ça. Et on a envoyé des choses dans les nuages, justement, pour faire tomber ce qu'on pouvait faire pleuvoir, etc. Mais comment est-ce qu'on peut rentrer comme ça dans un espace qui est à tous et ne pas penser qu'on va effectivement arroser le voisin ? C'est la vraie question. La question de l'écologie, elle est aussi simple que ça. C'est-à-dire que autant qu'on parle, effectivement, qu'on se respecte et qu'on essaye de voir comment on peut... J'ai pas dit s'en sortir, je crois qu'on n'est pas perdu, c'est pas la question. J'ai pas peur de demain du tout, mais je pense qu'il va falloir sacrément changer des systèmes d'alimentation, etc. Et regardez comme les choses changent. Le réchauffement, moi, qu'est-ce qui m'intéresse ? Je constatais ça l'autre jour à Nancy, où il faisait très très chaud. Mais les hommes, les jeunes hommes étaient torse nus. Ils ont maintenant des vêtements incarnés, exactement comme les sociétés indiennes, se peigner le corps. Ben, évidemment, il fait très chaud, donc pourquoi s'habiller autrement qu'avec des tatouages ou des trucs comme ça ? Donc petit à petit, on est en train de se dénuder, de transformer complètement les choses. Et de l'autre côté, il y a les folies religieuses qui interviennent, mais ça, c'est pas grave, c'est des anecdotes. En réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment demain on va revivre à poil. Ça, c'est formidable comme histoire.
À poil, mais quand même avec des guêtres.
Et avec des guêtres.
C'est ce que vous dites dans votre livre, pour se protéger d'une herbe toxique qui donne des boutons sur les jambes. Marianne Massé, peut-être pour terminer cette rencontre, on pourrait terminer par une lecture de votre texte.
Si vous voulez.
Oui.
Pas que ça aille bien.
Et puis une lecture ensuite du livre de Pascal Diby. On avait choisi un passage assez personnel dans lequel vous revenez sur la photographe Alix Cléo Roubaud.
Moi, c'est banal, c'est justement l'eau, dans sa proximité et son mouvement, qui me donne de l'air. Il y a du bonheur auprès de l'eau, et le contraire de la mort, dans mon rêve, ce n'est pas la vie, c'est la vague. Avec sa venue, on verse dans le vivre, pouls de la vague et rythme du respire, comme si le temps lui-même était un muscle. C'est sans doute parce que je suis née au bout d'un fleuve que mes yeux et mes poumons ont appris tout de suite, m'en ont tout de suite abreuvé et convaincu, que la vie est nécessairement poreuse, que la vie verse et boit, qu'elle est toute en infiltration, transpiration, évaporation, percolation, buée, mélange, filtrage, déprotection, fuite partout. On dit d'ailleurs d'une terre qu'elle respire quand elle est alvéolée, perméable et prête à avaler l'eau, et que la Loire respire lorsque, après la digue naturelle de granit du sillon de Bretagne, le milieu s'ouvre et qu'on arrive à ce qu'on appelle le ventre de l'estuaire. Désormais, je les cherche partout, ces échanges, humidité générale, conversation, lien, je les cherche du souffle et de la voix, la parole m'étant devenue une sorte d'estuaire du fleuve intérieur. Je n'ai rencontré que très récemment la série photographique d'Alix Cléo-Roubaud, intitulée « 15 minutes la nuit au rythme de la respiration », une série de 1980. Des images extraordinaires, fabriquées par le souffle de la photographe qui, allongée une nuit devant une allée de cyprès en Provence, avait placé sa chambre noire sur sa poitrine nue. La longueur du temps de pause a fait des arbres alignés devant elle un bouquet de flammes sombres, un paysage enfumé et même un paysage pulmonaire, si on le retourne, comme la radiographie inversée d'une cage thoracique. Et je cite Jacques Roubaud, dont c'était l'épouse. Les cyprès, sur la gauche de l'image, s'envolent dans une fumée noire et grise vers le ciel, non sous l'effet du vent, mais sous l'effet du souffle, qui soulève les seins et l'appareil photographique. Cette photographie est un hommage passionné et malheureux à la respiration, au souffle, que son auteur, asthmatique depuis l'enfance, elle allait en mourir, trouvait ainsi à signer dans l'image. Et elle allait en mourir, en effet, 3 ans après, je crois, Alix Cléo-Roubaud. Et je finis comme ça, pour aujourd'hui. Cette description de l'image de l'amour et du malheur de l'air par le poète et époux endeuillé referme le bel essai qu'une historienne de l'art, Hélène Giannichini, a consacré à l'existence fulgurante d'Alix. À la lecture de cet essai, j'ai d'ailleurs rêvé la possibilité d'un frôlement, d'un contact. À la fin des années 1970, la photographe passait l'essentiel du mois d'août à prendre les eaux, à la Bourboule, dans les Monts d'Or, pour soigner son asthme. Moi aussi. Elle avait près de 30 ans, j'en avais 3, 4, 5, petite silhouette en marche vers les bains de brouillard et la distribution d'une eau tiède et soufrée dont je garde le goût intact, mais dont seule l'une des photos d'Alix, un portrait des couloirs vides de la station thermale, m'offre aujourd'hui le souvenir. Même exercice.
Même exercice. Alors, je vais prendre... une petite histoire à partir d'une invention californienne des années 1967. C'est une nuit sur un lit particulier. Donc on est dans la cabane et on décide de dormir dehors et d'aller récupérer un lit qui est dans une autre cabane où le type est parti parce que justement il s'est fâché et la communauté était en pleine séparation. Donc je suis avec mon amoureuse qui s'appelle Layol et on décide d'aller dormir dans ce lit. On prit chacun une couette et un oreiller, sans oublier quelques encas, et 5 minutes plus tard, nous rejoignons dans la nuit noire la petite cabane de Rob, installée à flanc de coteau. C'est sur une petite terrasse en bois construite à sa dimension que le waterbed était installé dans son cadre de mousse, chauffant tranquillement le jour en attendant de réchauffer un dormeur dans les nuits fraîches de Big Sur. J'ignorais que sans apprentissage ni conseil, cet objet au contenu vague risquait fort de produire l'inverse du délassement. Depuis mon séant, je me laissais aller doucement en arrière. Je ressentis immédiatement cette impression incroyable d'enveloppement et de confort total. Glaïeul vint me rejoindre. Elle fit l'effet d'un bateau rentrant au port. Une onde si puissante qu'elle me repoussa sur l'autre rive. Le clapotis devint tempête et je me retrouvais éjecté sur la plage, à sec, comme une petite barque brusquement refoulée. L'état de rire couvrit l'ensemble. On s'accrocha aux poignets pour remonter à bord. Mais le matelas était trop plein et, comme on le sait, trop d'eau fait pierre. Ici, il eût fallu dire « fait ricochet ». Un pied, une main, une épaule, une fesse, un mollet, un bras, le dos. « Accrèche-toi, reviens !» Tout était prétexte au bidot pour nous désarçonner. On ne dort pas sur un lit trop meuble ou trop dur. Ici, c'était les deux. Enfin, on fit les morts. Ça se calma. Au moindre geste, une onde puissante se répandait à nouveau et nous voulions et nous volions ailleurs. Amusant, oui, au premier mouvement, mais au centième, je cherchais une épingle pour tenter de débonder l'objet de notre insomnie. Tout prenait une telle amplitude, nous menant à la limite du séisme, que sans dire mot, chacun prit position, l'un sur le dos, l'autre sur le ventre, tentant de trouver le sommeil qui ne semblait pas être tapis sous ce lit océan. Plus un mouvement, la mer était calme, et nous avec elle jusqu'à ce qu'un bruit furtif, mais anormal, parce qu'insistant, ne me mette en éveil. Vous voulez savoir la suite ? Page 53.
Alors, vous saurez la suite si vous achetez le livre de Pascal Didi, qui est en vente juste à côté. On a le temps pour prendre deux ou trois questions, si vous avez des questions ou remarques de lecture, peut-être. Il y a un micro qui circule. Non ? Alors, on s'arrête là. Merci à tous les deux.
Merci. Excusez-moi, je me suis réveillée un peu en retard. Et moi, j'ai beaucoup aimé les deux livres, et j'ai notamment beaucoup aimé la dimension de société qui est évidente dans les deux, et en particulier dans la conclusion, ce que j'ai trouvé un peu manifeste dans Respire, sur le fait qu'on ne respire pas tout seul, et de... J'ai fait une espèce de... J'ai un peu rejoint les idées de communauté des années 80, qui était ma jeunesse dans laquelle j'ai complètement trempé, avec bonheur. Ça m'a fait grand plaisir de les retrouver. Et ça. Donc j'aurais aimé que vous nous éclairiez un peu là-dessus, sur cette dimension.
Marielle ? On en a déjà un peu parlé, mais...
Oui, en effet, ce sont des mots-clés des deux livres, le commun, la communauté. Et on en a un petit peu parlé tout à l'heure, peut-être vous avez envie d'en dire davantage sur la forme même de la communauté, la joie en fait, hein. On en parlait en termes d'interdépendance, mais là ce dont il s'agit c'est la joie de faire ensemble, d'inventer ensemble d'autres manières de vivre et de les installer un petit moment quelque part sur la terre.
Mais sur cette question de l'interdépendance, il y a une très jolie chose dans votre livre, vous parlez du bouche à bouche. Et vous dites, au fond, quand on fait du bouche à bouche, on se rend compte qu'on ne rejette pas que des déchets, on peut aussi insuffler la vie.
Oui, on rejette un air encore très respirable. Donc c'est cette circulation que chacun de nous anime, auquel chacun de nous participe. Donc je pense que tous ces mots, commun, communauté... participation, ils sont en effet très, très présents, très actifs dans les deux.
Non, j'ai bien compris que vous êtes bien amusés aussi. Et à tel point, je veux dire, on est une génération bénie, on n'a pas eu de guerre, on s'est amusé tout le temps. Je veux dire une chose très intime, mais qui est réelle. J'ai acheté une concession au cimetière dans mon village et j'ai fait graver, c'est réel, Tornoso Vito. Je reviens de suite. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment, c'est effectivement cette génération. On a traversé un temps dans un bonheur absolu. avec toutes les histoires qu'on peut avoir différentes, etc. Mais je veux dire, ça a été quand même, et je crains qu'on soit en train de changer et d'atmosphère et de contenu même dans la société. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Le fascisme, comment le fascisme est en train d'arriver ». Eh bien, tournez-vous dans tous les sens, il est bien en train de monter un peu partout. Donc la respiration ne va pas durer longtemps.
Merci à tous les deux. Je rappelle les titres de vos livres, Pascal Dibi, California Dream, c'est aux éditions Anne-Marie Métellier. Marielle Massé, Respire, c'est publié aux éditions Verdier. Et donc les deux livres sont en vente sur la table juste à côté. Merci à vous pour votre écoute.